Katerina Ismailova, on essaie d'y retrouver Wojciech, alors que Wojciech n'y est pour rien. Shostakovich a laissé dans ses mémoires un portrait très émouvant de Berg, qui en dit long sur l'ambiance qui régnait à cette époque. Berg, dit-il, s'est révélé un homme remarquablement bien élevé. Il a plu à tout le monde. Il ne se conduisait même pas comme un étranger venu en tournée, mais il était plutôt timide et regardait sans cesse autour de lui. Avec sa lucidité habituelle, Shostakovich explique les raisons de cette timidité. Berg avait eu peur d'aller à Leningrad, ne sachant pas ce qui l'attendait, ni comment son Wojciech allait y être accueilli. De plus, juste avant la première représentation, il avait reçu un télégramme de Vienne l'informant qu'une bombe allait peut-être être lancée sur l'opéra. Donc on peut aisément comprendre l'état d'anxiété qui devait être le sien. Il raconte également que lorsqu'enfin Berg fut un peu plus rassuré, il s'enhardit à diriger lui-même son opéra. Mais qu'à peine il avait commencé à agiter ses bras, que ce fut la débandade au sein de l'orchestre du Mariinsky. On allait vers un gros scandale, et il a fallu que le chef d'orchestre du théâtre sauve la situation en se plaçant derrière le compositeur et se mette à diriger discrètement l'orchestre. Berg, nous dit encore Shostakovich, était tellement concentré qu'il n'a absolument rien remarqué. Et puisque Berg n'était pas un bon chef d'orchestre, je vous propose d'écouter ici sa sonate pour piano.
Thank you.
La sonate pour piano d'Alban Berg sur le clavier de Song Jing-cho. Merci d'écouter Espace 2. L'oreille d'abord explore aujourd'hui le cercle des amis de Dimitri Shostakovich. Je vous ai parlé de Khatchatourian, de Prokofiev, de Mahler et de Berg. On peut maintenant se demander ce qu'il pensait d'Igor Stravinsky, troisième grande figure soviétique de son temps. La réponse se trouve également dans ses mémoires. Stravinsky, confie Shostakovich, est l'un des plus éminents compositeurs de notre époque et j'aime vraiment un grand nombre de ses œuvres. Il nous apprend ensuite qu'il est entré dans sa musique par le biais de son ballet Petrouchka, dont il n'a pas manqué une seule représentation lorsqu'il fut donné au théâtre du Kirov. Dès lors, dit-il, ce merveilleux compositeur a constamment occupé mon attention. Shostakovich ne s'est pas contenté d'écouter la musique de Stravinsky, il l'a également exécutée, il en a fait des transcriptions et l'a même enseignée à ses élèves, au même titre que les symphonies de Gustav Mahler. Shostakovich ne se gêne pourtant pas de porter un jugement sur le travail de Stravinsky. Il lui reproche, par exemple, d'avoir oublié ses racines russes. « Sans doute a-t-il eu raison de n'être pas revenu vivre en Russie », écrit-il. « Sa conception de la morale est européenne. Sa façon de parler de ses parents, de ses collègues, tout cela est européen. Et cette approche m'est totalement étrangère. » Ses conceptions concernant le rôle de la musique sont aussi purement européennes, plus exactement françaises. Or, mes impressions concernant la France contemporaine sont mitigées. Personnellement, j'ai cru y déceler un fort esprit provincial. Lorsque Stravinsky est venu chez nous, il est venu en étranger. Il était même curieux de penser que lui et moi, nous étions nés tout près l'un de l'autre. Moi à Saint-Pétersbourg et lui dans la banlieue. Il n'aime ni le sacre du printemps, ni l'oiseau de feu, qu'il considère comme un travail grossier, qui, dit-il, mise beaucoup plus sur l'effet extérieur, tandis que l'intérieur reste creux. Ses œuvres préférées sont plutôt les œuvres tardives de Stravinsky, comme le concerto pour violon, la messe ou encore la symphonie de psaume, symphonie dont voici un extrait du troisième mouvement. Alléluia, Laudate Dominum, c'est le troisième mouvement de la symphonie de psaumes d'Igor Stravinsky, un mouvement qui s'appuie sur le psaume 150. Nous l'écoutions dans l'interprétation de Philippe Hérévègue à la tête du Collegium Vocal Gand et de l'Orchestre Philharmonique Royal d'Anvers. Dans ses mémoires, Dimitri Chostakovitch relève qu'il partage avec Igor Stravinsky des origines polonaises. « Nous appartenons tous à la même école, dit-il, même si nous nous sommes exprimés différemment. » Deux compositeurs de l'école russe en particulier vont exercer sur Chostakovitch une influence essentielle. Alexandre Glazounov, qui a été son professeur au conservatoire de Moscou, et surtout Modeste Moussorski, avec qui Chostakovitch dit avoir le plus d'affinité. Leur relation est si importante que je leur consacrerai peut-être une émission entière. Mais intéressons-nous peut-être pour refermer cette émission à la relation que Dmitri Chostakovitch a entretenue avec Glazounov. Notre compositeur a laissé de nombreux souvenirs sur ses relations avec son maître, de sorte qu'on pourrait, ici aussi, facilement y consacrer toute une émission. Je ne la ferai certainement un jour. Aussi, j'ai choisi de ne vous livrer qu'une seule anecdote qui m'a fait sourire en la lisant. Si l'on en croit les mémoires de Chostakovitch, Glazounov avait l'habitude d'être passablement imbibé d'alcool lorsqu'il donnait ses cours au conservatoire de Moscou. Voici ce que nous dit l'élève. Quant à mes bons rapports avec Glazounov, ils se sont établis sur un excellent terrain, celui de l'alcool. Il ne faut pas croire naturellement que Glazounov et moi avions l'habitude de boire et de manger ensemble. Lorsque nos chemins se sont croisés, il avait tout de même plus de 50 ans, alors que j'en avais 13. Il ne pouvait être guère question de boire ni de manger en camarade. Il faut noter que Glazounov n'était pas simplement un homme qui aimait boire un coup, mais quelqu'un que la soif torturait constamment. Il y a vraiment des gens qui ont des organismes mal conçus. Et de raconter comment au cours de l'année 1919, le communisme de guerre avait édité une loi sèche, extrêmement rigoureuse, interdisant la consommation d'alcool. Pour bien des gens, nous dit Chostakovitch, la disparition de la vodka, l'ultime consolation de la vie, fut une véritable catastrophe. Glazounov en avait un besoin impératif. C'est alors que le professeur fit la connaissance des parents de Chostakovitch qui, eux, avaient accès à l'alcool d'État. Comprenant la souffrance du compositeur, un marché fut conclu. Le père du jeune garçon allait aider Glazounov pour l'alcool. Le petit trafic fut découvert et devait causer bien du tort au jeune Chostakovitch. Des bruits se mirent à circuler. On a commencé à dire de Dimitri que c'était un incapable, qu'il avait acheté Glazounov avec de l'alcool, que toutes ses excellentes notes au conservatoire sentaient l'alcool. On a même suggéré de lui retirer son diplôme au conservatoire. Heureusement, nous dit Chostakovitch, ils n'y sont pas arrivés.
Thank you. Thank you.
Le premier mouvement Andante Allegro du quatrième quatuor à cordes d'Alexandre Glazounov, ici interprété par le quatuor Shostakovich. Ainsi prend fin cette oreille d'abord, proposition de Catherine Buzer, mise en onde aujourd'hui par Sacha Unger. Belle soirée sur Espace 2. Vous écoutez Espace 2, il est 17h30.
1899, au cœur des Alpes suisses. Un hôtel 5 étoiles en plein hiver. Un pari fou pour André Morel, jeune visionnaire prêt à tout pour réaliser son rêve. Mais face aux imprévus, aux employés indomptables et aux exigences d'une clientèle impitoyable, son ambition est mise à rude épreuve. Une histoire envoûtante inspirée de faits réels, drames, passions interdites et naissance du tourisme hivernal de luxe. Winter Palace, une série RTS en collaboration avec Netflix, à voir dès le 26 décembre sur RTS 1 et l'application Play RTS.
Bazar, Sébastien Pache.
Bazar, la cantine du soir, version musique. Alors ça, la cantine, la cantoche, ça fait jaser, n'est-ce pas? La popote, c'est un peu le sujet de prédilection de l'homo economicus. Toute époque, tout milieu et tout âge confondu. Vous lisez Titeuf, ça parle cantine. Vous croisez une collègue, ça parle cantine. Vous croisez votre mère, elle se demande comment était la cantine à midi. Vous êtes seul, et ben vous repensez au plat du jour. C'est une chaîne sans fin et sans mauvais jeu de mots. La musique, pardonnez-moi l'analogie, mais c'est un peu le même concept. Tout le monde en consomme, et donc tout le monde a ses goûts, ses gougous, ses envies, ses non-merci. Là où Bazar est une cantine du soir, c'est dans la mesure où seul soir, et que l'on sert tout le monde. Et que, peu importe où vous vous trouvez dans ces deux heures d'émission, il y aura à boire et à manger. C'est drôle parce que ça, on dit plutôt péjorativement d'habitude, à boire et à manger, ce qui est complètement faux, puisque c'est justement parce qu'il y a à boire et à manger qu'il y a un intérêt. On ne dit pas « il n'y a rien à becter et on crève de soif », c'est super. Qui dit ça? Les bénédictins? Votre tante qui fait du yoga? Votre voisin qui fait du jeûne intermittent? Bon, eh bien qu'ils intermittent, tous autant qu'ils sont, la soupe est chaude et il faut la battre tant qu'elle l'est, ou à peu près. Thank you. Le deuxième mouvement, une allemande de la première partita pour clavier en si bémol majeur de Jean-Sébastien Bach, une version au piano par Murray Peraya. Bazar sur RTS Espace 2 vous emmène musicalement jusqu'à 19h30. Premier arrêt dans une vingtaine de minutes sur les à peu près de 18h pour notre séquence opéra. J'ai intitulé « Passage à l'acte ». Ce soir, on parlera d'un opéra du XXe siècle, un opéra créé en 1960 qui s'intitule « A Midsummer Night's Dream », oui, il faut quand même s'en rappeler. Le songe d'une nuit d'été, une musique et un livret de Benjamin Britten. On vous en parlera plus longuement donc sur les à peu près 18h. Avant cela, de la musique, on continue macabrement avec Camille Saint-Saëns et une version pour violon et piano de sa danse macabre.
Thank you.
Gil Shaham au violon, accompagné de Jonathan Feldman au piano, dans cette danse macabre de Camille Saint-Saëns. Nous allons nous entourer de compositeurs anglais à présent, à commencer par un plus obscur que d'autres, John Herbert Fowles, compositeur né en 1880 à Manchester, qui s'est intéressé, entre autres, à la peinture. C'est pourquoi il a produit différents ensembles de pièces qu'il a intitulées « Music Pictures ». Nous allons entendre un extrait de son troisième groupe de « Music Pictures », justement, qui met en musique des tons, des demi-tons et des quarts de tons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est qu'on va entendre des intervalles qui sont un peu étrangers à la musique occidentale et qui rappellent peut-être l'Orient. Or, figurez-vous que ce John Fowles est mort à Calcutta. Bon, ça, il le savait pas avant, n'est-ce pas ? Toujours est-il que dans cette colombine, deuxième mouvement de son troisième groupe de Music Pictures, des quarts de ton, il y en aura.
Thank you.
une fin presque en clin d'œil. Le deuxième mouvement du troisième groupe de Music Pictures du compositeur anglais John Fowles, intitulé Colombine. Zachary Oramo était à la direction de l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham. Nous restons chez les Anglais avec un compositeur plus connu que ce John Fowles, Edward Elgar. Voici le deuxième mouvement de sa sérénade pour orchestre.
Thank you.
La Camerata de Berne, dirigée par Thomas Fury, dans le Larghetto de la Sérénade pour orchestre à cordes en mi mineur d'Edward Elgar. On reste avec Elgar, puisque nous allons entendre de la musique anglaise aussi après 18h dans le cadre de notre séquence passage à l'acte, séquence opéra, avec ce soir un opéra de Benjamin Britten, Le songe d'une nuit d'été. Alors voilà, on reste sur l'Albide Perfion. Ça, c'est bien joué. La perfide Albion. Après, on dirait que j'ai des troubles neurocognitifs. Excusez-moi. La perfide Albion, donc, est la première des cinq marches pompes et circonstances d'Edward Elgar.
Thank you.
cette marche qui s'achève sur le thème anglais Land of Hope and Glory, composition d'Edward Elgar, qu'on trouve dans cette première marche pompe et circonstance du même compositeur, Andrew Davis à la direction de l'Orchestre Philharmonique de la BBC de Londres. Tous les jours à 18h, nous passons à l'acte, voire aux actes. Nous allons présentement nous plonger dans un opéra de Benjamin Britten, Le songe d'une nuit d'été, créé en 1960 d'après la pièce éponyme de William Shakespeare.
Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra. Qu'en dites-vous ?
Bazar.